Le verre de Bancoul à l'honneur ce dimanche à Farino. Vous étiez nombreux et vous êtes encore nombreux à le déguster cru ou cuit. Une fake news qui évoque des mesures de restriction. Le Haut Commissariat avertit qu'il s'agit de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Manuel Valls doit conserver le ministère des Outre-mer. C'est ce que pense Sonia Baquès. La présidente de la province Sud était l'invitée du magazine Transparence vendredi. L'actualité nationale, Sébastien Lecornu effectuait son premier déplacement hier en tant que nouveau chef du gouvernement. Le Premier ministre a déjà fait plusieurs annonces. Direction les États-Unis où la femme de Charlie Kirk a pris la parole. Elle semble bien décidée à poursuivre le combat de son défunt mari assassiné jeudi. Et puis le sport avec le grand retour après 5 ans d'absence du marathon de Nouméa. C'est Mathieu Zalamacha qui s'est imposé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal et à la une. Ce dimanche midi, l'actualité festive sur le territoire. Ce dimanche, c'est le traditionnel marché de mamie à Farino qui célèbre aussi ses verres de Bancoul, Léana Colombo.
Il s'agit de la 38e édition. Tout comme l'an passé, en raison du contexte économique sur le territoire, la fête du verre de Bancoul a eu lieu en mode dégradé, c'est-à-dire pas de fouillage ni de bouffage, mais des dégustations tout de même. Ghislaine Arly, présidente du marché de mamie.
On a voulu garder notre verre de Bancoul et puis faire la fameuse dégustation. Donc il y a à peu près 1000 verres qu'on a mis à dégorger au coco râpé depuis hier. Et puis donc on fait déguster avec les deux recettes de mamie. On ne change pas quelque chose qui gagne. Donc les deux recettes de mamie, c'est donc les verres sautés au beurre maître d'hôtel et les verres flambés au pastis. Voilà, donc là ça marcherait bien. Et on a de l'autre côté un fouillage là-bas sous le flamboyant, un fouillage avec dégustation de verres crus non dégorgés. On est victime de notre succès comme tous les ans. Hein. C'est vrai, c'est dommage un peu pour la circulation parce que les gens vont se garer très loin. Mais les gens sont heureux, c'est le principal, ils passent une super journée. Il y a une très belle ambiance, c'est convivial, et donc c'est super.
Et ils étaient nombreux à vouloir tenter l'expérience de déguster les verres de Bancoul. Les plus courageux se sont même essayés à le manger cru.
Qui veut déguster un verre cru? Allez, c'est facile avec le pastis, ça passe mieux, mais là, cru. Allez, 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 les courageux. C'est damé de protéines, ça. Après, vous faites une séance de crossfit direct. Hein.
T'as dégusté alors là le verre cru, tu peux me dire ce que t'en penses?
C'est tout mou, c'est pas bon. J'ai attrapé, j'ai croqué direct dedans. Faut pas pinailler, sinon j'allais pas le prendre. Je sais pas quel goût ça a, mais un goût bizarre.
Ouais, je mangeais verre cru, je l'ai déjà fait il y a 5 ans. Maintenant que je suis de retour sur le territoire, je voulais le refaire. Du coup, bah, on va retenter. Hein. Eh ben, c'est pas mauvais. Hein.
C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais, ça y est, c'est fait. Et je pense que j'aurais pu faire un plus gros, mais pour reprendre, il fallait un petit.
Il y a un petit goût de noisette ou pas?
Petit goût de noisette, petit goût de coco. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal.
Les animations se sont terminées il y a quelques minutes au marché de mamie à Farino. Une 39e édition est déjà prévue l'année prochaine, avec peut-être le retour des fameux concours qui font la saveur si particulière de cette fête du verre de Bancoul.
Merci beaucoup Léana Colombo qui était donc au marché de mamie à Farino, spécial verre de Bancoul. À une toute autre échelle, au parc forestier de Nouméa, un petit marché s'est installé aujourd'hui avec des stands de produits locaux proposés aux visiteurs. Enzo Masseglia, chargé de communication événementielle à la direction du développement durable des territoires de la province sud.
L'idée, c'était de relancer un petit peu les marchés de proximité, donc faciliter l'accès à des produits locaux et qu'ils soient de Brousse ou de Nouméa et de rassembler tout ça dans un accès assez simple, donc au parc provincial zoologique et forestier. L'idée, c'est vraiment de faire participer les visiteurs, venir au parc, d'avoir une activité et d'en plus profiter des beaux produits qu'on a aujourd'hui. Quoi. On a des gens qui sont venus quand même spécialement pour le marché. La disposition fait que les gens peuvent venir rentrer et sortir librement et ceux qui veulent ensuite aller visiter le parc passent par le guichet qui est juste après. Donc on a cette première édition qui est un lancement, il faut en faire parler, ce sera donc chaque deuxième dimanche du mois de 9h à 14h. On invite un maximum de monde à se rendre sur place. Quoi.
Et notez qu'un petit marché était également mis en place dimanche dernier au parc provincial de la Rivière Bleue. C'était l'un des événements phares de ce week-end. Le carnaval de Nouméa faisait son grand retour après une année d'absence. 13 troupes, soit plus de 700 carnavaliers, se sont donné rendez-vous pour cette 36e édition. Des milliers de personnes se sont également rassemblées le long de la baie de Sainte-Marie pour assister à l'événement où l'ambiance était au rendez-vous.
Avec tout ce qu'on a vécu, ça fait plaisir.
Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment, mais voilà.
Au moins, ça fera plaisir aux petits gosses aussi.
Depuis que j'ai 10 ans, je ne suis plus revenue. Mais maintenant, à 17, 18 ans, bah, ça fait plaisir de revoir des gens qui sont quand même motivés pour danser devant les gens, tout ça. C'est motivant, j'aime bien.
Moi, je trouve ça très bien et c'est très rigolo.
Super, c'est très beau, on adore.
Pareil pour moi, c'est une très belle ambiance et félicitations à tous les participants.
Tout se passe bien, c'est sympa et beaucoup de bonne ambiance.
Et toi, t'as une troupe préférée ?
Oui, le volcan là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était bien.
Première fois pour nous, mais c'est génial.
Et notez que la mairie a déjà fait une promesse. L'an prochain, Nouméa remettra ses habits de fête.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Au chapitre des faits divers, à présent, un accident d'ULM. Ce matin à Bouraille, un homme a été blessé juste après le décollage de son appareil depuis la piste de Poé. Il souffre notamment d'une fracture à la jambe gauche. Les faits se sont déroulés peu après 9h. Les pompiers de Bouraille prennent actuellement la victime en charge. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident. Sur la route, à présent, des perturbations pour la circulation au Mont-d'Or sur la RP1 au niveau du pont de Laty et pour cause. La nuit dernière, un automobiliste sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants a percuté un dispositif de protection. Son véhicule a heurté les sacs de sable mis en place le long de l'axe de Saint-Louis. Il n'a pas été blessé. Les gendarmes veillent depuis ce matin à déblayer la route avec les équipes de la mairie. Une circulation alternée est mise en place le temps des opérations. Et puis cette communication du Haut-Commissariat relative à une fake news, une fausse information, Michael Geneski, diffusée sur les réseaux sociaux.
En effet, un faux message qui reprend les caractères des arrêtés diffusés durant la période des événements de 2024 et qui évoque une série d'interdictions et de mesures pour la période du 16 au 24 septembre prochain. Un faux communiqué donc, qui parle d'une interdiction de vente de boissons alcoolisées, de port ou de transport d'armes, de vente au détail et de transport de carburant et autres combustibles et surtout la mise en place d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire de 22h à 5h du matin et même de 18h à 6h du matin pour la période du 21 au 24 septembre. Somme toute, des mesures auxquelles les Calédoniens s'étaient habitués durant la crise insurrectionnelle au plus fort des émeutes l'année dernière. Le Haut-Commissariat tient donc à faire savoir qu'il s'agit là de fausses informations, ce qu'on appelle désormais des fake news ainsi diffusées sur les réseaux sociaux. Les services du Haut-Commissariat précisent que pour ce type d'arrêté, les Calédoniens sont invités à vérifier, consulter la page Facebook officiel du Haut-Commissariat ou le site internet du Haut-Commissariat. Pas de mesures restrictives à l'ordre du jour, donc rappelle le Haut-Commissariat.
Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre, c'est, selon Sonia Backès, la bonne personne au bon moment. La présidente de la province Sud, qui était vendredi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, pense néanmoins que Manuel Valls doit conserver le ministère des Outre-mer, Michael.
La présidente de la province Sud et chef de file des loyalistes s'est largement exprimée sur la situation politique nationale et sur l'accord de Bougival. Mais elle a d'abord été interrogée sur les décisions adoptées la veille par l'Assemblée de province. Il s'agit notamment du dispositif Sud Sécurité, qui est une aide pour la sécurisation des habitations, alors que la présidente de la collectivité regrette que l'insécurité pollue le quotidien des Calédoniens. Elle a aussi évoqué la mise en place d'une nouvelle stratégie du logement social et la volonté de résorber les squats. Sonia Backès a aussi été interrogée sur le dispositif Sud Pro, qui est en quelque sorte victime de son succès.
On est clairement victime du succès de l'opération. On a eu une session ce matin. Malheureusement, les crédits à nouveau de 120 millions ont été consommés en quelques minutes. On arrive malgré tout au bout des patentés qui pouvaient bénéficier du système. Donc on a encore une session au début du mois d'octobre où on va essayer de finaliser l'opération. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui voulaient pouvoir bénéficier très rapidement des crédits, qui n'ont pas pu valider leur devis. Les services sont très efficaces, ils traitent individuellement les gens qui ont connu des difficultés de connexion, etc. Mais c'est vrai qu'on est un peu victime de notre succès, tout simplement parce que les entreprises souffrent, parce que les patentés et les petites entreprises ont été les oubliés du système. Ils n'ont pas du tout été aidés par l'État, ils n'ont pas bénéficié du chômage partiel, puisque évidemment, quand c'est des entreprises individuelles, ils n'ont pas de salariés. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont beaucoup subi, et donc cette aide, elle était à la fois bienvenue, mais du coup, sans doute insuffisante pour un certain nombre.
Sonia Backès rentre de métropole, où elle a pu rencontrer de nombreuses personnalités représentant l'ensemble de l'échiquier politique national. Une seule exception, elle n'a pas rencontré les élus de LFI. Interrogée sur la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, elle estime que c'est la bonne personne au bon moment dans un tel contexte d'instabilité politique.
Je pense que c'est très très dur de trouver un équilibre sur le budget. Tout simplement parce que le problème n'est pas que budgétaire. Le problème, c'est que le Rassemblement national a intérêt à la dissolution, que tout le monde est en campagne présidentielle. Donc, a priori, c'est très dur de trouver un équilibre. Et je pense que si quelqu'un peut le trouver, cet équilibre, c'est Sébastien Lecornu. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est le plus habile dans la négociation. C'est celui qui a gardé les meilleures relations et avec le Parti socialiste et avec le Rassemblement national. C'est celui qui, s'il y a des équilibres trouvables, peut les trouver. Donc je pense que c'est un bon choix, en dehors du fait que c'est un ami, mais je pense que c'est le meilleur choix à ce moment de l'histoire. Je ne sais pas s'il réussira, je pense que le challenge est compliqué, compte tenu de la proximité avec les élections présidentielles, mais c'est la bonne personne au bon moment.
Sonia Baquès connaît très bien Sébastien Lecornu et elle a échangé avec lui sur l'accord de Bougival, mais elle pense que Manuel Valls doit rester au ministère des Outre-mer.
Je lui ai fait part évidemment du soutien au projet de Bougival, qu'il soutient également. Je lui ai aussi fait part du fait que je pense que ce serait plus simple pour la Nouvelle-Calédonie si Manuel Valls restait à ce stade. Sébastien Lecornu est un irritant pour le camp indépendantiste, il faut dire les choses. Les uns et les autres n'ont pas gardé un bon souvenir de lui. Et Manuel Valls est un ami des indépendantistes plus que c'est un ami à nous. Donc je pense qu'il y a besoin d'un équilibre. Donc Manuel Valls n'est pas mon meilleur ami et chacun sait...
Ça va mieux quand même.
Ça va mieux, évidemment. Mais je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, dans le processus dans lequel on est, à l'endroit où on en est rendu avec un projet de loi constitutionnelle à porter, une consultation organisée, etc., je pense que Manuel Valls reste la bonne personne pour porter le dossier calédonien.
Concernant la suite du processus de Bougival, la chef de file des loyalistes rappelle que l'examen par le Sénat de la proposition de loi organique pour le report des provinciales est prévu le 20 septembre, mais que cela pourra être retardé si le nouveau gouvernement n'est pas encore constitué. C'est un texte qui sera de toute façon examiné en urgence, mais derrière le report, il y a la question du corps électoral.
Le problème de fond, c'est que tout le monde veut aller aux élections, moi la première. Je considère que ce mandat est trop long, que la légitimité des élus passe par les élections. Je suis démocrate et donc il faut que les élections aient lieu. Et honnêtement, je préférerais que les élections aient lieu le plus rapidement possible. Sauf qu'on n'a pas de corps électoral. On a un corps électoral actuel qui sera de toute façon contesté par nous. Donc, et on gagnerait sans doute la contestation. Donc ça veut dire que quelques mois après l'élection, elle serait annulée et on devrait recommencer. Quelle stabilité ça apporte à la Nouvelle-Calédonie ? Aucune. Ça, c'est si les élections avaient lieu avec un corps électoral gelé. Et si, jeudi prochain, le Conseil constitutionnel décide que le corps électoral ne peut pas rester dégelé, les indépendantistes vont contester le fait que les élections se fassent avec un corps électoral dégelé sans accord global. Donc c'est insoluble. Évidemment qu'on souhaite faire les élections le 30 novembre prochain. Je pense que tous les élus le souhaitent. Ce mandat, il n'en finit plus. Mais les indépendantistes ne peuvent pas dire d'un côté, on veut un accord global, le signer, parce que je rappelle quand même qu'ils l'ont signé. Et puis d'un autre côté, dire, bah non, finalement, il faut les élections alors que le problème du corps électoral n'est pas réglé.
Sonia Baquès fait allusion à la QPC de l'association Un cœur, une voix sur laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer prochainement. Elle s'est aussi exprimée sur le projet de loi constitutionnelle et plus largement sur le calendrier de la mise en œuvre de Bougival. Mais pour elle, le vrai problème, c'est celui de la légitimité au sein du FLNKS.
Les gens qui ont signé Bougival ont été nommés officiellement par le FLNKS, par le bureau politique du FLNKS, pour être les négociateurs. Au final, on dit, ah ben non, ceux-là aussi, black boulet, ils sortent. Et donc, on en a des nouveaux. Et moi, j'ai rien contre les nouveaux. Je discute avec les gens qui sont légitimes. Mais sauf que, qui nous dit que demain, on trouverait un nouveau compromis avec les personnes qui sont désignées et qu'il n'y en a pas d'autres qui arriveraient de derrière et qui diraient, ah ben non, on va leur taper dessus à eux aussi. Ils dégagent et c'est des nouveaux. C'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont aujourd'hui décideurs au sein du FLNKS, pas tous, mais il y a une partie qui ne veut pas d'accord. C'est la théorie du chaos. L'accord, ça permet aux gens de rester, ça permet aux gens d'être bien ici, et donc ça ne permet pas la stratégie de faire partir les gens qui est la stratégie d'une partie du FLNKS. Donc ceux-là ne veulent pas d'accord, ils veulent le chaos, et donc ils n'ont aucun intérêt à ce que qui que ce soit signe.
Face à toutes ces incertitudes, le processus de Bougival peut-il échouer ? Sonia Baquès ne le croit pas, et elle reste persuadée qu'il faut avancer, mais elle estime qu'il faut rester prudent et patient.
Si Bougival, la consultation donnait lieu à un non des Calédoniens, là, très clairement, on reviendrait à ce qu'on appelle la situation ainsi créée, et donc on viendrait à la réexaminer, et il y aurait de nouvelles discussions, de nouvelles négociations. Je ne crois pas que ce soit la probabilité la plus importante. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est de faire arriver à la consultation. Une fois qu'on est arrivé à la consultation, je crois dans le fait que les Calédoniens soutiennent cet accord, mais il faut y arriver. Et ça, je ne suis pas sûre que ça arrive avant le mois de février, vu toutes les incertitudes qu'il y a.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Mickaël Juneski. 12h14, on marque une première pause dans ce journal avant d'évoquer l'actualité nationale et internationale.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Midi et quart, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité nationale avec Sébastien Lecornu qui effectuait ce samedi son premier déplacement en tant que nouveau chef du gouvernement. Le Premier ministre a choisi le thème de l'accès aux soins et de la vie quotidienne des Français. Il annonce notamment la création d'un réseau France Santé pour venir à bout des déserts médicaux.
On connaît toutes les situations politiques, on connaît toutes les situations budgétaires. Il y a plein de sujets, ils vont être traités par l'élection présidentielle. Mais je vois pas très bien comment on explique en ce moment aux Françaises et aux Français que la question de l'accès aux soins, ça va attendre 2027. En plus, si on prend ça à bras-le-corps, c'est quelque chose qui peut complètement enjamber les clivages. Et donc moi, ce que je vais demander au ministre et au gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 et du projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2026, c'est de faire un réseau France Santé. Et dans lequel on se dit une chose simple, c'est que d'ici à 2027, on doit avoir une offre de soins de proximité par bassin de vie à minima. Et donc globalement quelque chose autour de 30 minutes de chez vous.
Le Premier ministre qui a donc annoncé la création de 5000 maisons de santé d'ici 2027. Sébastien Lecornu a également annoncé ces dernières heures qu'il allait renoncer à la suppression de 2 jours fériés. Dans un entretien accordé à la presse régionale, le Premier ministre a dévoilé ses priorités. Sa première concession, c'est donc de renoncer à cette mesure initialement proposée par son prédécesseur François Bayrou. « Je souhaite que l'on épargne celles et ceux qui travaillent », a déclaré Sébastien Lecornu. « J'entends ce que disent nos concitoyens, ils veulent que le travail paye ». Fin de citation. En métropole toujours, ces 2 nouvelles interpellations dans l'affaire du violent passage à tabac d'un policier de la BAC à Tourcoing. 2 mineurs jusque-là inconnus des services de police. Au total, ce sont 5 suspects qui sont en garde à vue dans cette affaire. Pour rappel, le policier intervenait pour un simple vol de trottinette. Il a pu quitter l'hôpital, mais le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, précise qu'il reste très choqué psychologiquement. Gérald Darmanin qui a par ailleurs relancé l'idée de peine de prison minimale pour les auteurs d'agressions commises contre les forces de l'ordre. L'actualité internationale, direction l'Angleterre avec cette mobilisation qui a rassemblé plus de 110 000 Britanniques à Londres. Une mobilisation contre ce qu'ils appellent la submersion migratoire. Ils ont répondu à l'appel de Tommy Robinson, figure de l'extrême droite dans le pays. Éric Zemmour, notamment le président du parti français Reconquête, avait fait le déplacement. Et dans le cortège de cette manifestation anti-immigration, on a pu voir des portraits de Charlie Kirk, cet influenceur et militant pro-Trump assassiné cette semaine d'une balle dans la gorge. En parallèle, la femme de Charlie Kirk a pris la parole. Elle a tenu à adresser un message au responsable de la mort de son mari. Visiblement, elle semble bien décidée à poursuivre son combat. Rémi Amalvi pour Europe 1.
Les malfaiteurs responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher dans tout le pays et dans le monde entier.
Voilà les mots d'Erika Kirk 2 jours après la mort de son mari. Elle s'exprimait depuis le studio où l'influenceur enregistrait son podcast à Phoenix, en Arizona, et elle a promis de continuer les événements et les tournées de Turning Point USA, l'organisation que Charlie Kirk a fondée en 2012, initialement pour contrer l'influence de la gauche sur les campus américains, et qui était devenue l'image de marque très conservatrice de ces débats publics organisés dans les universités du pays. « Je ne laisserai jamais ton héritage mourir, mon chéri, je te le promets », a-t-elle ajouté. Turning Point USA deviendra la plus grande organisation que ce pays ait jamais connue. La jeune femme a également eu un mot pour Donald Trump. « Monsieur le Président, mon mari vous aimait et il savait que vous l'aimiez aussi. Votre amitié était incroyable. »
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Midi 19, on marque une seconde pause dans ce journal. On verra toute l'actualité sportive juste après, en compagnie de Mickaël Juneski.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Midi 20, la fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Et à la une de l'actualité sportive, le triathlon du soleil. L'événement faisait son grand retour ce dimanche à Nouméa, Mickaël Juneski.
En effet, la 35e édition d'un rendez-vous pour les triathlètes qui n'avaient pas pu se tenir depuis 5 ans. Les fans du genre ont particulièrement apprécié avec plusieurs parcours proposés. Et sur le long format, 1200 mètres de natation, 32 km de vélo, 8 km de course à pied sur la Côte Blanche et la baie des Citrons, Mathieu Salamacha a répondu présent. Il l'a emporté avec un chrono d'1h40 et 30 secondes.
Du plaisir de recourir dans Nouméa avec vraiment beaucoup de public et beaucoup de participants, des jeunes, des moins jeunes, des légendes. Bon, il en manque quelques-uns à l'appel, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir de courir ici. Il fait beau, les conditions étaient parfaites. Je suis plutôt content, la forme est bonne. Depuis les Jeux, j'avais fait un petit break, le temps de recharger les batteries, et puis remis un peu de rythme, un peu plus long forcément. Donc les compteurs sont au vert. Petit point de côté sur le début de la course à pied, ça faisait longtemps. C'est plutôt encourageant. Il me reste un mois de préparation pour les championnats du monde en Australie, là, dans un mois. Donc, c'est assez encourageant.
Mathieu Salamacha qui l'emporte avec plus de 2 minutes d'avance sur Jonathan Berger et plus de 3 minutes sur Gauthier Lezegretin qui complète le podium. Et chez les féminines, c'est Nathalie Viratel qui a également tenu son rang. Une victoire, mais pour elle, la course était ailleurs.
Bah oui, parce que mon fils, il a fait son premier triathlon, là, le triathlon XS. Donc c'est vrai que pendant que je roulais, je m'inquiétais de savoir s'il avait bien couru, s'il avait bien fini. Je le voyais au bord de la route, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait en course à pied. Du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il avait fait au lieu de me préoccuper de ma course. Ça fait bizarre du coup, c'est pas pareil.
La performance du petit alors, c'est quoi à l'arrivée
C'est bien, il a fait 3e dans sa catégorie. Donc, et puis je l'ai vu sortir de l'eau, il est bien sorti de l'eau, il a fait une bonne transition. Et après, je pense qu'il a réussi à maintenir en vélo et en course à pied parce qu'il a gardé son écart, donc ça va.
Notez que près de 400 participants étaient présents pour une 35e édition après 5 années d'absence, mais surtout pour le 40e anniversaire du triathlon de Nouméa.
Du côté du Yala Ranch, l'UTNC, l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie a rassemblé plus de 600 participants. Le départ de la course Rennes, les 100 km, avait été donné vendredi soir. Et après 14h, 20 minutes et 35 secondes, c'est Ludovic Lanceleur qui s'est imposé. On notera également la victoire d'Antoine Barguin qui est sur le 50 km en 5h40 minutes et 11 secondes. Toujours sur le territoire, on parle de football puisqu'on connaît l'affiche de la finale de la Super League, Mickaël.
Finale qui opposera Tiga Sport à l'AS Gaïcha. Hier après-midi, en demi-finale, Tiga a dû batailler jusqu'au bout de la prolongation pour venir à bout du CA Saint-Louis. Les joueurs de Saint-Louis menaient 2-1 à la 117e minute avant d'encaisser 2 buts coup sur coup. Victoire 3-2 donc de Tiga Sport. Ça a été plus simple pour Gaïcha qui s'est imposé 3-0 sur Yengen. 3 buts inscrits en seconde période. La finale de la Super League est prévue le samedi 27 septembre au stade Numa Delhi.
Et puis un mot de padel pour refermer cette page locale. Le TC Moncoffin organise depuis hier 2 tournois féminins, un P25 et puis surtout un P250. Et en finale, Christine Olwen-Michel et Flavia Manato, tête de série numéro 1, sont opposés aujourd'hui à Aurore Leno et Dana Branger, tête de série numéro 2 du tournoi. L'actualité des Calédoniens également avec du cyclisme dans la région.
Et la 29e édition du Tour Tahiti Nui démarre ce dimanche en Polynésie française. 13 équipes sont alignées au départ pour parcourir les 579 km reliant Tahiti à Moorea. Parmi elles, la sélection calédonienne composée de Kéril et Kyrian Moutry, Hugo Pommelet, Grégory Potier et Thomas Rizzolatti.
Un mot de golf également aux États-Unis. Cette fois, Hugo Koch disputera demain son deuxième tournoi au Texas. Pour rappel, le récent vainqueur du South Pacific Junior Open, c'était au Tina Golf, a terminé 8e du Texas Intercollège la semaine dernière.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport sur la scène nationale avec la 4e journée de Ligue 1, les victoires de Nice et Monaco ce matin.
Oui, tout d'abord Nice qui s'est imposé sur le plus petit des scores face à Nantes. 1-0, un but de Jérémy Boga. Les Nantais sauvés plus d'une fois par leur gardien Anthony Lopez disputait son 400e match en Ligue 1. Dans la foulée, Monaco, réaliste en fin de chaque période, a dominé largement la JOCR. Victoire des Monégasques 2-1 grâce à des buts inscrits dans le temps additionnel de la première mi-temps et en toute fin de match. Je rappelle qu'hier, l'Olympique de Marseille avait écrasé Lorient 4-0. Ce soir et demain matin, 6 rencontres au programme. Lille-Toulouse, Metz-Angers, Brest-Paris FC, PSG-Lens, Strasbourg-Le Havre et enfin Rennes-Lyon.
Du football, on passe au rugby avec la 2e journée du top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Les 6 rencontres de cette 2e journée se sont disputées cette nuit.
Et hier soir, le Lyon Olympique Universitaire est allé s'imposer sur la pelouse du promu Montauban 25-18. L'Aviron Bayonnais a lui dominé le club de Montpellier 26-23. La section paloise a écrasé le Stade Français 34-10. Victoire également du Stade Rochelais sur Clermont 34-16 et du Stade Toulousain sur Perpignan 31-13. Enfin, aujourd'hui, Toulon a eu raison de Castres 16-12. Demain matin, en match de clôture, le Racing 92 recevra l'Union Bordeaux-Bègles.
Rugby, toujours avec la 4e journée du Rugby Championship. Hier après-midi, l'Afrique du Sud a infligé une claque historique à la Nouvelle-Zélande, 43-10. C'est la plus lourde défaite de son histoire à domicile pour les All Blacks. Dans l'autre rencontre, l'Argentine est venue à bout de l'Australie, 28-26. Et puis pour être complet sur l'actualité de l'Ovalie, je rappelle que l'équipe de France féminine dispute ce soir son quart de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus affronteront l'Irlande à 23h. Du tennis avec l'équipe de France qui s'est qualifiée pour le Final 8 de la Coupe Davis.
Les Bleus qui affrontaient la Croatie, ils se sont imposés 3-1 grâce notamment aux deux victoires de Corentin Moutet, ses deux premières avec le maillot tricolore. Le Français a d'abord battu Dino Prinzic et ensuite il a dominé Marin Cilic en 2-7. Arthur Rinderknecht avait également battu Marin Cilic et en double, Pierre Hugerbert et Benjamin Bonzi ont été sèchement battus par la paire croate. Le Final 8 de la Coupe Davis se jouera en Italie à Bologne du 18 au 23 novembre. Une première qualification en phase finale pour l'équipe de France depuis 2019.
Du cyclisme avec la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta, c'était cette nuit.
Et le leader du classement général Jonas Vingegaard qui a triomphé au sommet de la Bola del Mundo. C'est sa 4e victoire sur cette édition du Tour d'Espagne. Le Danois qui a devancé Sepp Kuss et Jay Hindley. Au classement général, Jonas Vingegaard possède toujours 44 secondes d'avance sur le Portugais João Almeida avant la dernière étape prévue ce soir.
Les sports mécaniques avec le MotoGP. Et petite surprise, c'est Marco Bezzecchi qui a remporté la Sprint Race cette nuit.
L'Italien a devancé le petit frère Marquez, Alex, et son compatriote Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez, lui, n'a pas terminé la course, tout comme Fabio Quartararo, d'ailleurs, le Français. Tous deux ont chuté. Joan Zarco, l'autre pilote tricolore, a terminé 11e. Le départ du Grand Prix de Saint-Marin sera donné ce soir à 23h, heure de Nouméa.
En rallye, cette fois, le championnat du monde fait étape au Chili.
Et après 9 spéciales, pas de changement en tête, le Gallois Elfyn Evans sur Toyota est toujours leader. Il devance deux tricolores, Sébastien Ogier, 2e, et Adrien Fomo, 3e. Il reste encore 7 spéciales à disputer jusqu'au bout du week-end.
Et on termine avec un mot d'athlétisme pour rappeler que les mondiaux se sont ouverts ce week-end au Japon. Ils se dérouleront jusqu'au 21 septembre prochain. 12h28, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h dans un peu plus d'une demi-heure pour le rappel des titres à tout à l'heure.